Suivez Priorité Santé avec Suno Assurance, qui a le bon profil pour vous accompagner à assurer l'avenir de vos enfants.
Priorité Santé, Céline Guillaume.
Bonjour. Elle permet aux femmes d'avoir la maîtrise de leur fécondité et d'inviter ainsi des grossesses non planifiées, la contraception. En ce 26 septembre, journée mondiale de la contraception, Priorité Santé s'intéresse aux différents moyens contraceptifs féminins, pilules, anneaux vaginales, capes cervicales, stérilet hormonal, implants, patch. Comment faire son choix au milieu de cet éventail de propositions? Quelles sont les peurs engendrées par ces multiples dispositifs? Profitons-en pour trier le vrai du faux, idées reçues et risques avérés. Quelle est la fiabilité des alternatives dites naturelles? Comment lever les barrières et les freins chez les usagères, mais aussi chez certains professionnels de santé? On va le voir. Qu'en est-il de l'accès à la contraception pour les femmes dans les pays en développement? Quelques chiffres. Dans le monde, 160 millions de femmes en sont privées. La moitié d'entre elles se trouvent en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud, selon une étude publiée par l'ANSES. Autre chiffre, toujours à l'échelle mondiale, qui souligne l'enjeu majeur de la contraception. Près de 50% des grossesses qui surviennent sont non désirées. La contraception est notre sujet du jour. Pour nous éclairer, mieux appréhender les différentes options contraceptives qui s'offrent aux femmes, nous recevons le docteur Nasrine Khaled, gynécologue-oncologue à l'Institut Curie à Paris. Bonjour docteur Khaled.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'une bonne contraception ?
Une bonne contraception, c'est une contraception avant tout adaptée à la patiente. Parce qu'il y a différents types de contraception, mais chaque femme a sa contraception. Une contraception adaptée à son état de santé, bien sûr, qui n'est pas d'effet secondaire. Une contraception qui est adaptée à son couple. Et une contraception aussi qui est acceptée par le couple et surtout par la femme. Parce qu'il y a des femmes qui, par exemple, sont contre la pilule dans au niveau psychologique. Et ben, je peux leur donner la meilleure pilule, elle ne sera pas bien acceptée. Donc moi, j'insiste sur le fait que c'est du cas par cas et que c'est une contraception personnalisée.
C'est du cas par cas. Nous accueillerons dans un second temps pour notre pont Nord-Sud le docteur Monique Onomojong, gynécologue obstétricienne à Douala, au Cameroun. Elle porte entre autres ce message auprès de toutes les femmes en âge de procréer, même mineures, une contraception devrait être envisagée. Ténin Traoré, femme d'engagement de terrain, féministe active au sein de l'OSEF, l'Organisation pour la santé de l'enfant, de la femme et de la famille, prendra part à cette discussion aussi. Elle a fait de l'accès à la contraception son combat suite à un événement dramatique. Elle consacre aujourd'hui une grande partie de son temps à sensibiliser les jeunes filles en Côte d'Ivoire, notamment au sein des établissements scolaires. Et en toute fin d'émission, autre sujet, nous parlerons inclusion et handicap avec un coup de projecteur sur l'association Nos Enfants Extracapables. Pour l'heure, nous parlons contraception.
Priorité santé sur RFI.
Docteur Khaled, je rappelle que vous êtes gynécologue-oncologue à l'Institut Curie à Paris. Pourquoi certaines femmes ont une forme de défiance vis-à-vis de la contraception ?
Alors, il y a des raisons culturelles, il y a des raisons parfois personnelles, il y a des mauvaises expériences, il y a beaucoup de fausses idées. C'est pour ça qu'il faudra effectivement discuter avec sa gynécologue ou son médecin de tout ça, de dire ses craintes et avoir un éclaircissement. Parfois, ces craintes sont justifiées, mais très souvent, non.
Que peut-on dire dès maintenant, peut-être pour rassurer ces femmes ?
Alors, pour rassurer l'ensemble des femmes, c'est que la contraception, c'est quelque chose qui est individuel, en fait. Et c'est quelque chose qui doit être réversible, contrairement à la stérilisation. Ce n'est pas du tout la même chose. La définition de contraception, c'est empêcher d'avoir une grossesse, mais de façon réversible. On peut leur dire qu'il y a plein de progrès au niveau contraception, que ce soit contraception orale ou contraception mécanique, avec plus ou moins d'acceptabilité, ça dépend des femmes, mais en fait, les effets secondaires, surtout avec les contraceptions récentes, sont beaucoup moins importantes. Quand bien même s'il y a des effets secondaires qui apparaissent, c'est toujours possible. Du coup, cas par cas, il faut parler avec son gynéco pour adapter la pilule au fur et à mesure qu'elle la prend ou adapter la contraception.
En France, l'annonce a été faite il y a un peu moins d'une semaine par le ministre de la Santé. La pilule du lendemain sera dorénavant, à partir de 2023, délivrée gratuitement à toutes les femmes. Jusqu'ici, c'était réservé aux femmes mineures, donc à toutes les femmes qui en auront besoin. J'imagine que vous saluez cette initiative ?
Ah oui, je salue cette initiative, bien sûr, mais je rappelle néanmoins que la pilule du lendemain, ce n'est pas un moyen de contraception qui doit être perpétué, c'est juste en cas d'urgence, parce que ce n'est pas une contraception durable, c'est juste une fois ou deux fois, mais si on fait ça à chaque fois, à chaque rapport, pendant plusieurs fois, on dérègle la personne et ça donne des effets secondaires. Je salue bien sûr cette initiative parce que nombreuses sont les femmes qui, par crainte de ne pas pouvoir être remboursées ou quand elles n'arrivent pas à aller chez la gynéco, ne font pas cette démarche d'aller acheter la pilule du lendemain. Donc c'est très bien. Deuxième chose qui a été faite aussi, je profite pour dire que récemment, donc les pilules sont remboursées jusqu'à l'âge de 26 ans, alors que jusqu'à maintenant, c'était réservé aux mineurs. Enfin, c'est gratuit jusqu'à l'âge de 26.
Sur la pilule du lendemain, on a cette question d'Ibrahima au Sénégal arrivée via Facebook. Pendant combien de temps peut-on prendre une pilule du lendemain après un rapport non protégé ? Sera-t-elle toujours efficace si on la prend dans les 5 jours après ?
Alors, il y avait des pilules du lendemain qui étaient efficaces 48 heures après un rapport non protégé, mais maintenant, avec les nouveaux procédés, là, la pilule du lendemain est efficace jusqu'à 72 heures et pas plus. Je rappelle quel est le principe de pilule du lendemain. Ça apporte une charge hormonale importante chez la femme qui empêche qu'une grossesse se mette à l'intérieur de l'utérus. Donc, je rappelle également qu'il ne faut pas faire ce procédé plusieurs fois dans le mois. C'est juste en cas d'urgence.
Une sorte de super pilule.
Voilà, super pilule.
Nous accueillons Binta, qui est en Guinée-Conakry et qui doit être, je devine, en tout cas attentive à l'échange que nous venons d'avoir. Bonjour Binta.
Oui, bonjour.
Bienvenue. Vous avez déjà utilisé la pilule du lendemain et vous pensez qu'elle a provoqué chez vous des effets secondaires assez désagréables. Racontez-nous.
Oui, oui. Au fait, moi, j'ai toujours eu l'habitude d'utiliser, la méthode de retrait. Vu les stress, les soucis, les angoisses que j'avais chaque mois et l'irrégularité de mes règles, j'en ai parlé à une amie qui m'a conseillé d'utiliser normalement il y a 6 mois de cela. Mais sauf que moi, ça a eu des effets secondaires parce qu'après, ça a provoqué des saignements et tout. Finalement, j'ai dû arrêter. Je l'ai utilisé qu'une fois et depuis lors, je l'utilise plus.
Alors, docteur Calais, alors il y a beaucoup de choses dans ce témoignage de Binta. Elle nous parle de la méthode du retrait. Peut-être qu'on peut en dire un mot d'ores et déjà.
Oui, alors la méthode du retrait, c'est le partenaire qui se retire avant l'éjaculation. Donc il n'y a pas de sperme au niveau vaginal sur le col. Donc en principe, il n'y a pas de risque de grossesse. Mais
le liquide séminal.
Voilà. Mais ce n'est pas toujours évident, déjà, parce que parfois, il y a des incidents. Et puis, malgré tout, parfois, il y a quand même une pénétration avec une insémination du sperme au niveau du col.
Donc, fiabilité contrastée.
Ah oui, énormément. Alors, donc, la pilule du lendemain, comme disait Binta, je ne sais pas si son ami l'a conseillé, c'est juste, comme je vous ai dit, c'est un truc d'urgence. Parce que pourquoi qu'il y a eu des effets secondaires ? C'est parce que, comme on a dit, ça apporte une charge hormonale importante chez la femme, donc ça, pas abîmé, mais ça modifie, si vous voulez, la paroi de l'utérus qui desquame et ça donne des saignements. Alors ça, c'est pour le cycle où elle a pris, mais après, si elle fait ça souvent, elle aura des saignements n'importe quand et du coup, on ne sait pas qui est qui. Donc moi, je dis oui pour la pilule du lendemain, en cas d'urgence, mais pas de façon régulière.
L'une des questions de Binta, c'est aussi comment faire quand on ne veut pas utiliser de contraceptif. C'est bien ça, Binta ? Il y a une sorte d'appréhension à avoir recours au contraceptif. Donc, comment faire ?
Alors, là, si on ne veut pas utiliser de contraceptif, c'est très risqué. Il y a des femmes qui ont des cycles très réguliers. Ça, c'était la méthode Gino, où les cycles tous les 28 jours, on se base sur l'ovulation, mais on sait qu'il y a beaucoup de bébés qui sont venus comme ça. Parce que quand on ne prend rien, on n'est pas non plus comme une horloge. L'ovulation n'est pas pile poil le 14e jour. Donc, c'est vrai que si on ne veut pas utiliser, nous, une contraception, il faudra imposer à son partenaire d'avoir des préservatifs. Et après, il y a des contraceptions locales que les femmes peuvent mettre, c'est-à-dire c'est des ovules ou des gels qu'on met avant les rapports. C'est vrai que c'est un peu contraignant, que ce n'est pas très romantique, qu'il faut bien le mettre à l'intérieur du vagin. Il ne faut pas avoir de, il faut pas faire de toilette interne après les rapports parce qu'on enlève ce produit, mais ça existe quand même, donc c'est un petit recours. Alors, ce n'est pas 100% parce que la seule façon d'avoir une contraception à 100%, c'est soit la pilule, soit les autres méthode de stériliser.
Binta, il vous reste donc l'option du préservatif et de. Est-ce que c'est ce qu'on appelle les spermicides, ce dont
voilà,
vous avez parlé, docteur
Calais? Oui, oui, exact.
Et les spermicides. Voilà, Binta.
Okay, c'est noté. Merci beaucoup.
Merci à vous pour cet appel. Docteur Calais, Binta a aussi parlé de règles irrégulières. Est-ce que c'est un motif de consultation, justement, les règles irrégulières?
Alors, les règles irrégulières sont dues à un fonctionnement de l'ovaire qui existe, mais qui n'est pas très régulier. C'est pas grave, mais ça pose un problème, justement, si on veut faire attention pour la contraception. On ne sait pas quand on ovule, donc du coup, on est un peu dans le flou. Donc ça existe, c'est les ovaires qui ne travaillent pas de façon régulière. Ils fabriquent des petits kystes qui ne sont pas méchantes, mais qui donnent un dérèglement hormonal. Donc les règles sont irrégulières.
Binta a aussi quelque part abordé la question des méthodes dites naturelles. Hmm. En parlant de la méthode du retrait, quelles sont les autres méthodes naturelles? Et on a le sentiment qu'il y a un regain pour ces méthodes-là. Vous avez parlé de la méthode Ogino, elle a parlé de la méthode du retrait. Il y a cette méthode thermique aussi où on surveille la température de son corps pour savoir à quel moment on ovule ou pas, des méthodes contraignantes qu'il faut suivre vraiment de très près.
Oui, ces méthodes entre guillemets naturelles existent, mais c'est jamais 100% fiable. Ouais. Alors, quand on ovule, normalement, chez une femme qui a des règles tous les 28 jours, on ovule vers 14e jour. Donc, l'ovulation fait qu'il y a une hormone qui est sécrétée, qui est la progestérone, qui fait un tout petit peu monter la température. Donc, les filles qui prennent leur température, ils voient monter la température. Mais ça, c'est toujours a posteriori. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a ovulé, qu'on voit que la température a monté. N'oublions pas que l'ovule vit à peu près 3 jours, les spermatozoïdes aussi. Donc, si on a eu des rapports avant l'ovulation, on peut aussi être enceinte, parce que donc, 2 ou 3 jours avant l'ovulation, si on a eu un rapport, le spermatozoïde peut rester vivant dans le corps, et pareil pour l'ovule. Donc ce n'est pas 100% fiable. C'est un peu contraignant. Il y a aussi des tests d'ovulation, c'est pareil. C'est des tests qu'on achète à la pharmacie, on fait pipi dans un verre et on met les tests de grossesse. Voilà, les tests de grossesse. Mais c'est toujours après coup qu'on voit qu'on a ovulé, ce n'est pas avant. Donc si on a eu des rapports avant, eh ben, c'est risqué. Et quand on a ovulé, pendant 3 ou 4 jours aussi, il faut faire attention. Donc moi, les méthodes naturelles, c'est bien. Je sais qu'il y a un regain, mais c'est jamais 100%. Donc on vit dangereusement.
Oui, donc méfiez-vous de ces méthodes naturelles. Elles pourraient être la source d'une grossesse non planifiée.
Oui.
Effectivement. Quelques questions à vous soumettre, docteur Calais, de Khadija en Guinée. Que deviennent les règles lorsque l'on prend la pilule en continu?
Ah, alors ça, c'est une bonne question. Mmh. C'est-à-dire que quand on prend la pilule, le principe de la pilule, c'est que ça bloque les ovaires. Nos ovaires ne travaillent pas. C'est pour ça que c'est 100% efficace, bien sûr, si on n'oublie pas la pilule. Donc, du coup, les règles qu'on a avec la pilule, ce n'est pas nos règles à nous, puisque les ovaires sont endormis et la paroi de l'utérus s'épaissit grâce aux hormones qui sont dans la pilule. Donc, les règles arrivent avec la pilule, mais ce n'est pas nos règles, c'est les règles de la pilule. C'est pour ça que si on prend des pilules fortement dosées, les règles sont abondantes. Si on prend des pilules faiblement dosées, les règles sont faibles. Mais ce n'est pas grave, parce que c'est des règles de la pilule. Pour des raisons pratiques, parfois, il y a des femmes qui prennent la pilule en continu, c'est-à-dire qu'elles enchaînent 2 plaquettes l'un après l'autre. La paroi de l'utérus s'épaissit. Eh ben, les règles ne reviennent rien du tout. La paroi s'épaissit et quand elle a arrêté au bout de, par exemple, 2 mois de plaquettes, eh ben, cette paroi desquame et ça part. Et donc, les règles s'éliminent comme ça. Mais c'est toujours les règles de la pilule.
Lydie, en Côte d'Ivoire, une question qui, à mon avis, ne sera pas simple. Quelles contraceptions sont à privilégier pour un couple qui ne désire pas avoir d'enfant du tout?
Alors ça bien sûr, c'est quelle contraception comme tout le monde, hein, soit la pilule, soit le stérilet, mais ça dépend de l'âge aussi. C'est-à-dire qu'au début de l'émission, on a dit qu'une contraception, c'est une méthode réversible. Mais si un couple, une femme a plus de 40, 43 ans et qu'elle veut plus d'enfants, éventuellement, on peut, ou s'il y a une contre-indication, s'il y a une maladie quelconque, on peut envisager une stérilisation tubaire ou chez l'homme une vasectomie. Stérilisation tubaire, c'est-à-dire qu'on interrompt le flux de l'ovulation et du coup, l'ovule ne circule pas. Chez l'homme, c'est pareil. Donc ça, c'est définitif, ce n'est pas une contraception. Sinon, pour un couple qui ne désire pas du tout d'enfant, c'est les mêmes contraintes que les autres.
Oui, qui est soumise à consultation pour trouver...
Mais si elle a, donc après, c'est... à distance, éventuellement, elle peut envisager une stérilisation tubaire.
C'était un message de Lydie en Côte d'Ivoire. Mmh. Quels sont les principaux moyens contraceptifs qui existent pour les femmes?
Alors, avant tout, bien sûr, il y a la pilule. Je rappelle que ça fait pas très longtemps que... ça fait un certain temps, mais ça fait pas très longtemps non plus, puisque c'est dans les années 60 que la pilule contraceptive est venue sur le marché. Et voyez, par exemple, paradoxalement, on parle toujours des pays d'Afrique, mais un pays comme le Japon, qui est un pays qui est développé, eh ben, la contraception, la pilule, n'a été autorisée qu'en 1999, donc ça ne fait pas si longtemps. Donc avant tout, il y a la pilule contraceptive avec les hormones. Alors il y a des pilules où il y a deux hormones, estrogène, progestérone. Il y a des pilules où il n'y a que la progestérone. Donc premier type de contraception, c'est la pilule. Il y a des pilules qu'on peut donner à certaines femmes qui ont certaines pathologies, genre hypertension, diabète, maladie cardiaque, et d'autres qu'on peut donner plus ou moins à tout le monde. Mais la pilule doit être adaptée à l'âge de la personne. C'est-à-dire qu'on ne donne pas une pilule à 25 ans, la même pilule à 40 ans, parce qu'il faut adapter à son état hormonal. Donc il y a toutes les sortes de pilules. Je rappelle quand même les contre-indications majeures de la contraception orale. C'est tout ce qui est cancer hormonodépendant, cancer du sein ou cancer de l'utérus. Mais ça, c'est pour les femmes qui ont déjà eu malheureusement le cancer. C'est pas par peur d'avoir le cancer. Donc, la pilule adaptée à chaque âge, à chaque cas, à chaque pathologie, c'est la première type de contraception.
Au mode de vie aussi.
Au mode de vie aussi. Alors, après, maintenant, les pilules de la nouvelle génération, ça protège pas mal. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément à l'heure fixe qu'il faut prendre, mais quand même, bon. Après, il y a tout ce qui est... En fait, il y a des pilules qu'on prend par la bouche, des comprimés. Il y a des pilules qu'on met sous la peau. Ça, c'est pour les personnes qui ne veulent pas avaler ou qui sont étourdies, mais ce n'est pas la même composition. Ces pilules sous la peau, parfois, ils donnent des effets secondaires, notamment des saignements, ou éventuellement une absence de règles. C'est normal, c'est parce que c'est des pilules micro-dosées sous la peau qui libèrent dans le corps des hormones de façon irrégulière, donc ça donne des troubles des règles. Il y a la pilule qu'on peut mettre en anneau vaginal pour les femmes qui ne veulent pas avaler tous les jours, mais l'anneau est placé par la patiente elle-même dans le vagin. La première fois, la gynéco doit lui montrer. Cet anneau doit être enlevé tous les 28 jours pour avoir des règles et on remet de nouveau, après les règles, un autre anneau.
Il y a les dispositifs mécaniques.
Voilà. Après, il y a toutes les contraceptions dites mécaniques qui, avant tout, c'est le stérilet. Alors, le stérilet, il y a plusieurs sortes de stérilets. Le principe, c'est mettre un corps étranger dans l'utérus par la gynéco qui empêche l'anidation de l'œuf dans l'utérus. Alors, il y a des stérilets classiques qui est à base de cuivre et argent, parce que c'est des effets contraceptifs qu'il faut changer à peu près tous les 4-5 ans. Et comme c'est un corps étranger qui est dans l'utérus et qui provoque des règles abondantes, il y a le stérilet cuivre et argent, plus un peu d'hormones qu'on met dans l'utérus, pareil par la gynéco, qui diminue le volume des règles. Je rappelle que le stérilet est parfois pas bien toléré chez les femmes qui n'ont pas eu d'enfants, parce que l'utérus n'a pas été habitué à avoir un corps étranger à l'intérieur, donc parfois c'est pas bien supporté. Mais il y a des stérilets de tailles différentes, ce qu'on appelle les stérilets short, les petits, qui peuvent être posés chez les femmes qui ont un petit utérus ou qui n'ont pas eu d'enfants.
Un contraceptif peut être réévalué un second temps, si jamais...
Exact, c'est l'intérêt d'adapter la contraception au fur et à mesure. Il faut prescrire une contraception, soit revoir la personne, soit l'appeler, soit qu'elle nous appelle pour dire comment elle a supporté au bout de 3 à 6 mois et après l'adapter. Parfois, on prescrit une pilule qui ne convient pas tout à fait, on peut le changer. Parfois, on pose un stérilet, il y a des effets secondaires, on peut le réévaluer. Après, il y a toutes les contraceptions mécaniques, entre guillemets, qu'on dit pour la... Je veux dire, c'est des préservatifs, par exemple, pour les femmes. Il s'agit d'un anneau qu'on met à l'intérieur du vagin, qui c'est pareil, ça, si on le met, il faut, ça empêche les spermatozoïdes de monter dans l'utérus, mais ça, pareil, il faut déjà bien le mettre. Et deuxièmement, il ne faut pas l'enlever juste après les rapports, il faut attendre quelques heures, parce que sinon, il y a le... Oui, oui, 2 heures.
Ah oui. C'est, on voit,
beaucoup de contraintes.
On voit la contrainte. Voilà. On va accueillir Michel qui est avec nous depuis Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Bienvenue Michel.
Bonjour.
Michel, on vous écoute.
Alors, j'ai 34 ans, je suis maman de 2 enfants. J'ai commencé à prendre la pilule quand j'étais au lycée. Je devais être, je crois, en seconde ou en première. Et après, j'ai arrêté parce que j'avais le désir d'être maman. Mais après, donc, on a un accord avec mon mari, au début d'année, donc 2022, on a décidé qu'il fallait qu'on reprenne la méthode du lycée. Alors, je suis allée voir une amie qui est sage-femme dans un hôpital. Elle m'a conseillé la pilule, mais sous forme injectable. Seulement, j'ai constaté qu'il y a beaucoup d'effets que je n'avais pas remarqué quand je prenais ma pilule au lycée. Alors d'abord, premièrement, j'ai des saignements, comment on peut dire, 2 mois après. Quand ça arrive, ça dure pendant 3 semaines. J'ai la prise de poids, je suis les troubles de sommeil, je suis irritée, nerveuse. Et j'ai la poussée excessive de l'acné, en tout cas. Et j'ai des douleurs, vraiment, avant que les règles n'arrivent. J'ai des fortes douleurs, si bien que les antispasmodiques m'ont dit que simple ne marche pas. Je suis obligée de prendre du kétoprofène. Quelquefois, j'alterne avec du tramadol pour me sentir soulagée. Mais le flux sanguin, il est énorme. Et j'ai des caillots. Au moment où je vous parle, je suis... ça fait... 3 semaines, donc je vais plutôt à 4 semaines que je suis en train de saigner et avec des caillots. Les douleurs sont arrêtées, mais moi, l'inquiétude, c'est beaucoup plus au volume sanguin et aux caillots et les sortes d'humeur que je commence à ressentir. Je me dis, est-ce que c'est normal? Est-ce que si j'arrête, je serai obligée de vivre ça continuellement, le fait que je prends... mes injections, ou bien ça va s'arrêter. Vraiment, j'ai trop de questions qui planent dans la tête. J'aimerais bien avoir des réponses.
On les entend, Michel. Docteur Calais.
Alors, la contraception par piqûre tous les 3 mois peut être basée... Enfin, c'est des hormones. Souvent, c'est des hormones progestérone. Mais le dosage est assez fort, ce qui fait qu'il y a un dérèglement important qui s'est créé chez Michel, surtout qu'elle a accouché avant. Et du coup, ça a un peu bouleversé son équilibre hormonal. La paroi de l'utérus est irrégulière, ça saigne. Et du coup, non seulement c'est vraiment fatigant, mais surtout, ça va créer une anémie chez Michel qui va la fatiguer au fur et à mesure. Il faut quand même se méfier qu'il n'y ait pas un fibrome ou des polypes à l'intérieur de l'utérus de Michel. Parce que ne mettons pas tout sur la pilule. Mais les autres effets qu'elle a parlé, les sauts d'humeur, l'acné, et tout ça, c'est en rapport avec cette forme de contraception qui apporte une charge importante de progestérone. Et c'est une progestérone de synthèse qui est fortement dosée et qui peut donner des effets secondaires comme l'acné, parfois un peu de pilosité, une prise de poids. Donc c'est vrai que c'est à cause de cette forme de pilule. Alors je ne sais pas pourquoi Michel a opté pour ça, parce que peut-être pour des raisons pratiques, parce que c'était tous les 3 mois, mais je pense qu'il faut qu'elle arrête ça, parce que si elle persévère, ça ne va pas s'arranger.
Et consulter à nouveau.
Et consulter, et puis peut-être adapter dans un premier temps une autre contraception. Alors ça peut être le stérilet, ça peut être une autre pilule, et éventuellement dans un deuxième, troisième temps, si elle veut quand même revenir à une injection, elle peut à ce moment-là. Mais là, elle est en dérèglement hormonal, donc c'est à cause de ça. Et méfions-nous qu'il n'y ait pas un polype ou quelque chose qui fasse saigner en plus.
Voilà Michel, vous avez quelques informations pour vous aiguiller et poursuivre sur une consultation. Merci beaucoup Michel. Dans un instant, nous allons essayer de démêler le vrai du faux, les idées reçues, les fausses croyances sur la contraception. Et nous allons accueillir l'une de vos consoeurs, le docteur Onomo Jong, qui est au Cameroun, ainsi que Tenin Traoré, qui est une femme engagée qui sensibilise en Côte d'Ivoire les jeunes à la nécessité de prendre une contraception. Yeah, yeah. Baby,
te con la fefa, ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña, hoy no trabaja, está morena, fuck la fama, fuck la faena, la noche es larga, la noche está buena, mambo violento, el fin del problema. Mira que fácil te lo voy a decir, ABC, 1, 2, 3, mira que fácil te lo voy a decir, que estamos tu mami, ya no está pa' ti. Mira que fácil te lo voy a decir, ABC, 1, 2, 3, mira que fácil te lo voy a decir, que estamos tu mami, ya ando de...
Rosalia avec Despecha sur RFI. Nous reprenons notre discussion autour de la contraception, pilule stérilaire, injection, implant hormonaux. Effectivement, il y a une proposition assez large dans laquelle les femmes peuvent se sentir perdues. Et on l'a bien compris, docteur Calais. Je rappelle que vous êtes gynécologue, oncologue à l'Institut Curie à Paris. Vous êtes avec nous depuis le début de ce rendez-vous. Et les femmes peuvent se retrouver perdues. Et il y a ces fausses croyances, ces idées reçues qui circulent parfois à propos de la contraception et qui génère beaucoup de peur chez les femmes. On va écouter cette note vocale laissée par Rissikat depuis le Bénin.
Moi, c'est Rissikat depuis le Bénin. Je suis âgée de 38 ans. J'aimerais poser deux questions aux spécialistes. La première question, est-ce que c'est vrai que c'est la méthode contraceptive ont pour conséquence des kystes myofibromes chez les femmes et absence totale de règles chez d'autres femmes et où Essai de saignement. Ma deuxième question consiste sur les fausses croyances. On dit souvent que pratiquer les méthodes contraceptives, que c'est comme si on fait des avortements et qu'on empêche d'autres enfants de venir au monde. Donc, c'est ça. Merci bien.
Est-ce que la contraception, c'est comme si on avortait? Est-ce vrai? Elle est importante, cette question. C'est
très
important d'y répondre.
Ça, c'est une fausse croyance, puisque par définition, quand on est sous contraception, on n'ovule pas, donc on n'a pas de grossesse. Donc, je ne vois pas comment on peut faire un avortement si on n'a pas fait de grossesse. Donc, ça, c'est complètement faux. Les kystes, c'est faux aussi. C'est faux si la contraception est bien adaptée. Mais si la contraception n'est pas adaptée à la personne qui a de nature de fabriquer des kystes, elle peut saigner, effectivement, les kystes vont exister. Donc c'est toujours pareil, c'est le rôle du médecin pour expliquer à la patiente quelle est la contraception qui lui convient et surtout pourquoi, pour qu'il n'y ait pas ces mauvaises croyances ou des fausses croyances.
Nous avons un message de Vanessa à Kinshasa. On m'a toujours déconseillé d'utiliser des moyens contraceptifs car ils posaient des risques de cancer. Est-ce vrai ?
Non, alors ça c'est complètement faux. Le risque de cancer, il y a des cancers qui sont même diminués, notamment le cancer de l'ovaire est diminué, la pilule protège contre le cancer de l'ovaire. Pour les cancers du sein, si la patiente n'a pas de cancer du sein ou n'a pas une tumeur qui est douteuse dans le sein, ça ne provoque pas de cancer du sein. Ça c'est sûr et certain, quelles que soient les études. Et puis, encore une fois, la contraception, surtout la pilule, doit être adaptée à l'âge de la patiente. C'est-à-dire qu'on ne doit pas donner le même dosage, par exemple, vers la ménopause qu'à 25 ans. Alors, c'est pour ça que parfois, il y a des anomalies du sein, la pilule n'est pas adaptée et ça peut booster cette anomalie du sein, effectivement. Mais ce n'est pas la pilule qui a donné le cancer.
Louisette, qui se trouve également à Kinshasa, en RDC, est-ce que la prise de pilule pendant très longtemps peut rendre stérile ?
Non, la prise de pilule pendant très longtemps ne rend pas stérile, mais comme on a dit, la pilule bloque les ovaires pendant la prise et quand on l'arrête, pendant quelques mois, les ovaires peuvent rester endormis. C'est pour ça que les femmes qui veulent une grossesse rapidement après l'arrêt de la pilule, il faut bien leur expliquer ça parce que les ovaires peuvent ne pas se réveiller très tôt après l'arrêt de la pilule, mais ça ne rend pas stérile.
Voilà pour essayer de balayer, de faire le tri hein, dans ces idées reçues. Docteur Calais, c'est vrai qu'on voulait aussi aborder ce point. C'est finalement les freins à l'accès, dans l'accès à la contraception. Mais du côté des professionnels de santé, on peut en dire juste un mot. C'est que chez certains professionnels de santé, parfois, non pas par malveillance, hein, mais bien malgré eux, parfois ils négligent la contraception des femmes proches de la ménopause ou des jeunes filles, des adolescentes ou même des personnes en situation de handicap. Là aussi, il y a un besoin de formation et d'information.
Il y a un énorme besoin de formation. Il n'y a pas de contre-indication, quel que soit l'âge et la pathologie à une contraception, à condition que la contraception soit adaptée à l'état de la personne. Par exemple, une personne handicapée qui a des problèmes pour prendre effectivement une pilule tous les jours ou poser un implant ou des choses comme ça, eh ben, on adapte la contraception. C'est dans ces cas-là qu'on peut poser un implant, on peut poser un stérilet, ou dans certains grands handicaps, on peut même proposer effectivement une stérilisation tubaire. Les femmes autour de la ménopause, même si elles sont en périménopause, elles risquent la grossesse, en péripubertaire aussi. Donc, il ne faut pas avoir de réticence vis-à-vis de ça. Il faut être ouvert pour parler avec la femme, expliquer les moyens possibles et adapter toujours la contraception à l'état de la femme. Mais c'est vrai que malheureusement, il y a des lacunes chez les collègues professionnels de la santé aussi. Alors maintenant, il y a beaucoup de sages-femmes aussi qui, Dieu merci, nous aident pour la vulgarisation. Par exemple, après l'accouchement, c'est souvent les sages-femmes qui prennent en charge ça.
Accueillons le docteur Monique Onomojong, gynécologue obstétricienne à Douala, au Cameroun. Bonjour docteur Onomojong.
Bonjour Céline.
Ravi que vous participiez à cette discussion et merci d'avoir accepté d'y participer. À mes côtés, le docteur Calais, gynécologue-oncologue à l'Institut Curie à Paris. Docteur Onomojong, vous voulez faire entendre ce message. La contraception, elle s'adresse à toutes les femmes en âge de procréer, même les jeunes femmes mineures. Ça, faut le dire.
Oui, absolument, absolument. Et surtout ici au Cameroun, parce que c'est un sujet qui est quand même tabou, la contraception des jeunes. Déjà, comme je vois ce qui a été évoqué, il y a un manque d'information. Et ici, particulièrement au niveau des jeunes, c'est un sujet tabou qu'on n'aborde pas, y compris chez les médecins, ce qui fait que les jeunes filles ont du mal à les consulter. Parce qu'elles ont l'impression que c'est pas pour elles, qu'on va les rejeter, peut-être qu'elles vont avoir des discours moralisateurs, qu'on va les chasser, qu'elles ne seront pas bien accueillies. Donc du coup, c'est une population qui bricole.
De quelle façon? Donc, moi, je vois... De quelle façon bricole-t-elle?
Alors, bon, déjà, il y a beaucoup de patientes qui, maintenant, y compris chez des adultes, qui estiment qu'elles peuvent surveiller leur cycle. Alors maintenant, il y a aussi les applications sur Internet qui font que les femmes ont l'impression, avec ces applications, qu'elles vont contrôler la situation. Donc ça, j'ai ça chez les patientes aussi bien adultes que chez les jeunes. Mais chez les jeunes, je pense qu'elles sont très applications, justement. Et donc, elles vont sur ces applications, elles essayent de bricoler un peu. Voilà, donc ça c'est. Voilà, je voulais quand même attirer l'attention là-dessus parce que c'est quelque chose qui revient souvent, cette histoire d'application, et je voulais que les gens sachent que les applications, c'est la même chose que la bonne vieille méthode dite Ogino d'avant.
Dont on a parlé tout à l'heure avec le docteur Calais. Justement, oublions les applications et posons les bonnes questions. Où les femmes en besoin de contraception peuvent se rendre pour obtenir des informations et être orientées au Cameroun?
Alors, au Cameroun, il y a des centres de planning familial qui sont dans les hôpitaux. Mais c'est vrai que les jeunes ont l'impression que ces centres ne sont pas faits pour eux. C'est plutôt, ça s'adresse à des femmes qui viennent d'accoucher, par exemple, et tout ça, ou des femmes adultes, mais elles pensent que ce n'est pas pour elles. Ou alors, effectivement, elles peuvent consulter une sage-femme, elles peuvent consulter un médecin généraliste ou un gynécologue. Elles sont tout à fait bienvenues. Voilà. Il faut qu'elles sachent ça. Mais il y a aussi un frein, c'est que les consultations étant payantes, y compris à l'hôpital, c'est un frein pour les jeunes, parce qu'elles n'ont pas forcément les moyens d'avoir accès à une consultation hospitalière ou autre.
Le frein financier, et on voit là toute la place aussi des associations qui peuvent aider ces jeunes femmes ou moins jeunes femmes. D'ailleurs, docteur Renaud Mojang, je vous propose d'écouter ce message de Maïmouna, qui se trouve justement au Cameroun et qui est concernée par la contraception des femmes à titre personnel, mais aussi professionnel. On l'écoute.
Bonjour Priorité Santé, moi c'est Maïmouna, je vous appelle depuis Kousséri au Cameroun. Alors moi, mon premier contraceptif, je l'ai posé après l'accouchement de ma première fille, il y a 5 ans déjà. La 6e semaine après l'accouchement, je suis allée voir mon gynéco. Elle m'a présenté les différentes méthodes et j'ai opté pour l'implant parce qu'elle ne nécessitait pas une prise médicamenteuse chaque jour. Donc 3 mois après, je ne saignais pas, je suis retournée la voir. Elle m'a dit que c'était qu'on observe la situation au bout de 6 mois. Je suis revenue la voir. Elle m'a dit que je fais partie des 12% de femmes qui ne saignent pas lorsqu'elles sont sous leur plan. J'ai fait des recherches sur Internet et puis ça m'a rassurée. Donc, je travaille avec les femmes sur la santé sexuelle et reproductive. La difficulté qu'on a, c'est que lorsque vous parlez de contraception avec elles, malgré le fait qu'elles aient beaucoup d'enfants et sans l'espace sur moi, elles disent que non, la religion n'est pas d'accord. Et puis, il y a leur mari qui disent que dès qu'elle va commencer, au lieu qu'elle prenne la contraception, ils préfèrent prendre une seconde femme. Donc, du coup, ça les limite vraiment. Ça les encourage pas à prendre les méthodes contraceptives. Bonne journée.
Merci, Maïmouna, pour cette note vocale. Docteur Onomojong, on entend dans ce message... dans son travail auprès de ces femmes aussi, les freins que vous avez évoqués, là, les freins religieux, les freins socioculturels, on les voit là.
Absolument, absolument. Et vraiment, je tiens à la féliciter pour son engagement. Voilà, parce que c'est vraiment très, très important, effectivement, qu'il y ait des associations proches des patientes qui les encouragent. Parce qu'en fait, avant d'arriver chez le médecin, il y a un frein. Les femmes n'osent pas. Les femmes et surtout les très jeunes filles, elles n'osent pas. Donc, c'est bien s'il y a des associations qui peuvent les encourager, les conseiller aussi et leur dire qu'effectivement, la contraception, c'est aussi pour elles.
Docteur Renaud Mojang, je vous propose d'accueillir Tenant Traoré dans cette discussion. Bonjour Tenant Traoré, merci d'être avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous militez, vous êtes, je pense qu'on peut le dire comme ça, vous militez, vous êtes engagé au sein de l'OSEF, l'Organisation pour la Santé de l'Enfant, de la Femme et de la Famille, pour sensibiliser justement les jeunes à la contraception. Et votre engagement rejoint ce que nous disions à l'instant avec le docteur Renaud Mojang. Cet engagement, il est né à la suite d'un drame. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
Alors, merci de me recevoir dans votre émission. Malheureusement, mon engagement... fait suite à un événement triste. Quand on était au lycée, j'ai perdu une amie des suites d'un avortement clandestin. Et la semaine d'après, on a eu cours de sciences de la vie et de la terre. Et au cours de ce cours, il était question de parler des méthodes contraceptives. Donc on a reçu l'information après le drame. Et ça a créé beaucoup de choses en moi. Et j'ai intégré le club santé de l'école, puis après d'autres associations. Et aujourd'hui, je suis engagée pleinement pour la promotion des produits contraceptifs auprès des adolescentes et jeunes.
Vous qui êtes sur le terrain, qu'est-ce qui remonte de ce terrain sur la connaissance des jeunes à propos de la contraception?
Alors, ce qui revient, c'est que les jeunes ont peu d'informations fiables sur la contraception. Il y a beaucoup de rumeurs au niveau des jeunes, et les partages d'informations ne sont pas toujours vrais. Et aussi, la disponibilité des produits contraceptifs. Les jeunes ne connaissent pas les endroits où les produits sont disponibles de manière gratuite, et les informations ne sont pas toujours vérifiées auprès des jeunes. Donc, il y a vraiment le souci de l'accès à l'information, à la contraception. Les jeunes n'ont vraiment pas accès à l'information. Ils n'ont pas l'accès aux services de santé et ils n'ont pas l'accès aux produits de contraception.
Vous leur apportez cette information, vous leur dites aussi où aller pour accéder à cette contraception et vous avez une méthode bien à vous, j'ai envie de dire, pour sensibiliser les jeunes, c'est l'humour. Ça fonctionne bien avec eux.
Oui, on va sur ce que les jeunes aiment parce qu'en milieu jeune, on n'aime pas être jugé, être moralisé. Donc, faut prendre les choses sur l'aspect assez, je vais dire, fair play entre griffes, pas trop sérieux, pour emmener le jeune à prendre plus conscience de ce qu'il vit comme situation et de l'emmener à un changement de comportement. Et là, c'est des actions qui ont été vraiment prouvées. Donc, à côté de cela, on a également l'art qu'on utilise auprès de ces jeunes-là, parce que les jeunes sont très créatifs, ils ont beaucoup de choses. Donc, on utilise également ces créneaux-là pour pouvoir leur apporter l'information fiable en ce qui concerne la contraception, mais en ce qui concerne même la sexualité responsable de façon globale.
Et vous parlez leur langage pour les atteindre et mettre un pont entre eux et vous. Comment évoluent les choses depuis que vous êtes lancé dans cet engagement? Est-ce que vous voyez se mettre en place, même petit à petit, un réflexe, j'ai envie de dire, contraceptif chez les jeunes?
Oui, ce qui nous donne la force de continuer, on a des retours assez positifs auprès des adolescents et jeunes. Donc, et déjà, au niveau de l'information, les jeunes sont plus ou moins informés de tout ce qui est santé de la reproduction. Comme on l'a dit tantôt, on va vers eux, donc on les retrouve dans leur lieu de formation, soit à l'école pour ceux qui sont dans le système formel et ceux qui apprennent des métiers. On les retrouve sur les sites de formation, si c'est la coiffure, la couture ou la mécanique, on les retrouve sur ces sites-là. On les retrouve également au marché pour celles qui n'ont pas vraiment le temps, qui ne sont pas disponibles. On les retrouve dans ces endroits-là où nous partageons l'information. Et on les retrouve également sur les réseaux sociaux. Donc, aujourd'hui, en termes de statistiques, on a une augmentation assez importante. Les jeunes consultent, sinon fréquentent les centres de santé amis des jeunes, dédiés aux jeunes. Donc, avec la géoréférence que nous faisons, les jeunes savent plus ou moins où sont situés les centres de santé pour aller adopter une méthode de contraception sans être jugés, sans être nexté et sans payer, surtout. Il faut le relever parce que c'est un frein. Comme le docteur le disait, le coût, voilà, l'aspect financier est un frein. Alors que dans ces centres de santé, c'est gratuit l'adoption des produits contraceptifs. Donc quand l'information complète est partagée, les jeunes y vont et on a des chiffres qui montrent qu'on a une augmentation de la fréquentation de son centre-là par les jeunes.
Je voudrais rappeler que vous, Tenin Traoré, vous vous trouvez en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez un message à faire passer, en particulier sur les avortements non sécurisés, les avortements clandestins? Juste peut-être ce chiffre qui est terrible, c'est que dans le monde, toutes les 9 minutes, une femme meurt des suites d'un avortement clandestin.
Oui, c'est assez terrible. Les statistiques et mon histoire est assez dramatique. Donc je pense que au niveau de la Côte d'Ivoire, nous n'avons pas de loi sur la santé de la reproduction. Donc on a un vide juridique. Donc aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose d'assez difficile et compliqué pour les acteurs et actrices qui sont engagés sur la thématique. Donc, c'est vraiment inviter l'État à combler ce vide juridique-là. Les réalités sont là. Donc, il faut vraiment apporter des réponses selon les situations actuelles que nous vivons.
Merci, Tenin Traoré. Docteur Ono Mojon, que vous inspire l'engagement de Tenin Traoré?
Mais écoutez, c'est vraiment très important. C'est très, très bien ce qu'elle fait d'être sur le terrain, d'encourager les jeunes. Parce qu'effectivement, il nous faut, nous, les médecins, il nous faut des relais. Il faut des relais parce que l'expérience prouve c'est que ces jeunes n'osent pas aller consulter. Donc voilà, ça c'est un premier travail, mais il y a un travail à faire à plusieurs niveaux. Déjà au niveau aussi de nous les médecins, d'être plus disponibles, de ne pas avoir de discours moralisateurs, de savoir comment s'adresser à ces jeunes, parce qu'une jeune fille qui vient consulter un gynécologue, par exemple, souvent elles sont pétrifiées, donc elles n'osent pas, il y a des questions qu'elles n'osent pas poser, et il y en a qui n'osent même pas venir parce qu'elles ont peur d'avoir un examen médical gynécologique. Donc il faut être formé aussi pour ça, pour savoir comment recevoir ces jeunes filles, ces jeunes femmes. Et puis au niveau aussi des gouvernements, il faut qu'il y ait des campagnes d'information envers ces jeunes, parce que l'expérience prouve, on le voit, qu'il y a un manque d'information patent Et ça, c'est vrai que les associations font beaucoup, beaucoup de travail, mais ça ne peut pas être qu'entre les mains des associations.
Je vous remercie toutes les deux, Ténin Traoré. Je rappelle que vous êtes une féministe engagée au sein de l'OSEF en Côte d'Ivoire et docteur Renaud Mojong, merci. Vous êtes gynécologue obstétricienne à Douala, au Cameroun. Merci. Docteur Calais, vous êtes toujours avec nous. En un mot, que nous réserve la recherche pour la contraception du futur? En un mot.
J'espère contraception pour les hommes qui participent un peu.
On y va là, on voit qu'on y va.
Petit à petit, on y va.
Eux ont-ils envie d'y aller? C'est une autre question.
Si, la nouvelle génération peut-être. Oui. Puis c'est à nous les femmes aussi les motiver.
Ils ont d'ailleurs publié une tribune, dont je ne me rappelle plus quel journal, pour demander que la recherche avance sur ce sujet.
C'est aux femmes aussi de les motiver.
Bon, eh bien, on va les motiver.
Les motiver, et puis il faut dire que la contraception, c'est avant tout l'affaire de la femme. Et aussi, je voulais juste dire un mot, que la contraception ne protège pas contre les maladies sexuellement transmissibles. Ce n'est pas parce qu'on prend la pilule qu'il ne faut pas se protéger. Et c'est un message que je veux faire passer, qu'il faut dire lors de la première consultation aussi.
Donc, le préservatif. Merci, docteur Calais. Je rappelle que vous êtes gynécologue, oncologue à l'Institut Curie à Paris. Merci.
RFI.
Pour notre sujet de fin, comme annoncé en début d'émission, nous accueillons Sandra Sénou. Bonjour Sandra Sénou.
Bonjour.
Vous êtes la mère d'Alexandre, un jeune garçon, collégien, porteur de handicap, qui aime le rap, qui aime les livres et qui se rêve commentateur sportif. Pourquoi pas? Vous êtes la fondatrice de l'association Nos Enfants Extra Capables, qui promeut l'inclusion des enfants handicapés. Vous êtes auteur du livre Les Aventures d'Alexandre, le rêve d'Alexandre, publié à Compte d'Auteur, et productrice du podcast Nos Vies Extraordinaires, où vous narrez votre quotidien. Commençons par l'association. Quelles sont les actions que vous menez grâce à elle?
Alors, grâce à l'association, on va mener des actions sur le terrain. L'association a pour but d'accompagner les familles d'enfants porteurs de handicap à accepter le handicap de leur enfant. Je parle souvent d'acceptation parce que sans acceptation, il n'y a pas de véritable prise en charge de notre enfant ou de notre suivi. On ne doit pas l'accompagner comme il se doit. Donc ici, on prend en compte l'aspect psychologique. On va accompagner les parents avec des groupes de parole, avec des psychologues formés, pour écouter et pour les aider justement à faire ce cheminement qui est accepter qu'on a un enfant différent. C'est pas ce qu'on avait prévu, mais c'est comme ça, on doit faire avec. L'acceptation passe aussi par avoir un diagnostic précis sur ce qu'a notre enfant, parce que son diagnostic, on ne peut pas accepter. Donc, l'association met en place des caravane paramédicale, par exemple, c'est-à-dire qu'on va avoir ici en France des professionnels formés, ergothérapeutes, orthophonistes ou psychologues cliniciens qui vont former du personnel sur le terrain en Afrique. Parce qu'on a deux volets, France et Afrique.
Sandra, c'est nous, on arrive sur les dernières secondes. Donc je voudrais quand même juste dire un mot sur ce livre. Ce livre, il permet à votre fils et à tous les enfants porteurs de handicap finalement eh bien, de se voir à l'intérieur de ces pages. Ça permet de parler d'handicap, ça permet aux enfants, aux parents aussi d'introduire ces sujets, c'est ce que vous en dites, et ainsi qu'aux professeurs. Donc merci beaucoup pour ce travail et pour ces images que vous déconstruisez à propos du handicap. Merci Sandra Sénou. Merci également au docteur Calais. Je rappelle que vous êtes gynécologue, oncologue. Merci au docteur Renaud Mojong, gynécologue à Douala, et à Ténin Traoré.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance, qui a le bon profil pour vous accompagner à assurer l'avenir.